François Lebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Lebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. On va parler d'un livre qui fait grand bruit en ce moment. Le livre de Charlotte Belaïche et Olivier Perroux, La Meute. C'est une enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui est paru chez Flammarion. La Meute, le terme, qui a d'ailleurs été repris à de très nombreuses reprises hier à l'Assemblée nationale par Aurore Berger lors de la discussion d'une proposition de loi pour lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.
Tout à fait. Alors, je suis très heureux qu'un journaliste du Monde et une journaliste de Libération se penchent sur cette question du fonctionnement sectaire et dictatorial de la France insoumise. Mais ils ne sont pas les premiers. C'est ça qui m'étonne. Alors, comme si une est journaliste à Libé et l'autre est journaliste au Monde, ils ont eu la primeur des bottes-feuilles et de la première page de ces deux quotidiens classés à gauche. Mais ce qui m'a frappé, moi, et on en avait parlé à cette antenne, Pierre, il y a quelques mois, Julien Drey, qui lui a très très bien connu Mélenchon, puisqu'il a été son allié politique pendant presque 10 ans, a sorti un livre remarquable qu'on a évoqué sur cette antenne il y a quelques mois, qui s'appelle « Qui est Mélenchon ?» et « Qui est Mélenchon ?» sans point d'interrogation. Et il décrivait d'abord le fonctionnement psychologique, politique de Mélenchon, ses mécanismes et surtout sa formation lambertiste. Pierre Lambert était le fondateur de l'OCI, l'Organisation communiste internationale, qui était un groupe trotskiste organisé comme une secte. Et les méthodes sectaires totalitaires de Mélenchon, il les a apprises il y a plusieurs décennies aux côtés de Pierre Lambert. Donc ce n'est pas une surprise ni pour vous, ni pour moi, ni pour beaucoup de nos auditeurs. Mais c'est une très bonne chose qu'effectivement, des journaux de gauche bien pensants, qui pour l'instant épargnaient plus ou moins Mélenchon, surtout Le Monde, Libération parfois l'attaquait justement de manière assez lucide, mais se mettre à décrypter tout le système où c'est un chef unique, c'est un leader maximo, comme dans les dictatures sud-américaines, et notamment il était fasciné par le dictateur vénézuélien actuel Maduro, mais aussi par son prédécesseur. Et d'ailleurs, il avait appelé à une révolution bolivarienne, je ne sais pas si vous en rappelez, en 2017, pour prendre le pouvoir en France. Et puis, en plus, on l'a vu dans l'actualité politique, c'est-à-dire que des fidèles proches parmi les profs, proches comme Alexis Corbière, qui était à l'OCI avec lui, chez Lambert, son ami et son lieutenant le plus fidèle depuis 30 ans, a sauté comme un fusible. Et effectivement, le fonctionnement de Meute existait très fortement. Ils sont très équipés sur les réseaux sociaux, ils sont très structurés. Vous comme moi, on le sait, on y est souvent attaqué par eux. Ils fonctionnent, ils ont des robots, ils ont des trolls, mais ils ont aussi un nombre de militants efficaces qui harcèlent sur les réseaux sociaux, qui harcèlent dans la presse, qui menacent, qui font peur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont, et c'est ça qui est nouveau dans cette enquête, c'est que les journalistes ont fait leur bon boulot d'investigation, ils sont allés interviewer non pas des opposants, non pas des déçus de Mélenchon, mais ses plus proches lieutenants, ses plus proches alliés, comme Daniel Simonet, comme Rachel Garrigo, comme Alexis Corbière, comme François Ruffin, comme Clémentine Autain, qui ont tout d'un coup basculé du côté noir du miroir pour Mélenchon, et ils ont été bannis, excommuniés, chassés du petit sérail. Et c'est très important que ce mécanisme soit décrypté, parce que Mélenchon, à deux reprises au moins, a failli se retrouver au deuxième tour des présidentielles. Il est candidat à nouveau pour les présidentielles de 2027, et j'espère que des Français qui sont intelligents, lucides et pragmatiques, au-delà de son talent d'orateur, son talent de tribun et ses grandes envolées lyriques, découvriront le système sectaire de ce personnage qui, s'il devenait président de la République, serait un vrai dictateur sud-américain ou d'Europe de l'Est, comme on en connaît, et ferait régner un climat de terreur. Et j'ai compris aussi qu'à juste titre, il dévoilait un peu plus les mécanismes et la dérive antisémite de Mélenchon, que j'avais dénoncé, moi, dans La Règle du jeu en 2017, et dans Libération aussi en 2017. Et à l'époque, d'ailleurs, La Règle du jeu, c'est le magazine, la revue de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy m'avait dit « On n'a jamais eu un tel déferlement d'attaques antisémites sur notre site, suite à la publication de votre article sur ce qui s'appelait Mélenchon et le peuple supérieur, où déjà en 2017, je pointais du doigt depuis 4-5 ans les dérives antisémites de Mélenchon, et il m'a dit, j'ai reçu 3000 messages antisémites, et il m'a dit, vous François, 1000. Alors j'ai dit, ah oui, je suis déçu, j'aurais aimé en avoir autant que vous, mais ils venaient tous de la France antisémite, mm-hmm. C'était en 2017, donc il y a 8 ans. Donc c'est très bien qu'un journaliste du Monde et de Libé s'y attaque, c'est très bien que c'est cette couverture presse et cette retombée à l'Assemblée nationale, car peut-être le masque va enfin tomber de ce leader charismatique qui séduit la jeunesse, parce que c'est ça le pire, il séduit la jeunesse, mais que c'est un fasciste au petit pied.
Alors, justement, les masques tombent et la meute s'en est pris à Jérôme Guedj, qui fut la semaine dernière au centre de l'attention médiatique. Violemment pris à partie au cri de « sioniste dégage » lors du rassemblement parisien en hommage au meurtre d'un jeune malien dans une mosquée, puis le 1er mai, où il a été ciblé et insulté par des manifestants de gauche ou d'extrême gauche, le député socialiste Jérôme Guedj répond à ses détracteurs qu'il accuse d'avoir une lecture pro-israélienne du conflit au Proche-Orient, ainsi qu'à ceux de son propre camp, joue avec le feu et alimente un climat qu'il juge antisémite à son encontre.
Alors Jérôme Guedj est d'abord un ami personnel. J'ai eu l'occasion de le découvrir, on se connaissait un petit peu, mais j'ai eu l'occasion de le découvrir parce qu'on est au conseil de direction de Sciences Po ensemble pendant 3 ans, et notamment pendant 1 an et demi suite aux attentats et aux attaques pogromistes du Hamas en Israël après le 7 octobre 2023 et la flambée d'antisémitisme. Et j'ai pu admirer d'abord son intelligence, mais aussi son courage. Son courage, parce qu'au conseil de direction de Sciences Po, effectivement, nous étions les deux les plus vocaux sur les dérives antisémites d'un certain nombre d'étudiants, et d'ailleurs d'étudiants apparentés à LFI de l'Union étudiante. Donc ça, son courage physique, son courage moral ne me surprend pas, et je lui apporte tout mon soutien dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve, car lui aussi, un peu comme Julien Dray, a été proche de Mélenchon il y a une vingtaine d'années, il était même son assistant parlementaire, et il a vu cet homme laïque, républicain, qui n'aimait pas les islamistes, qui n'aimait pas l'islam radical, qui avait une culture franc-maçonne, bah, dériver vers un antisionisme virulent et un antisémitisme de plus en plus visible. Donc il n'a pas été surpris par la violence dont il a été victime aussi lors de la journée des femmes. Hein, le 8 mars, il avait déjà été attaqué au cri de sale sioniste, dégage. Ça a recommencé le 1er mai. Ça a recommencé le 27 avril pour la manifestation en hommage à Aboubacar Cissé, le jeune musulman poignardé dans le Gard. Par contre, ce qui le blesse, mais ce qui le blesse comme beaucoup de gens qui apprécient une gauche sociale démocrate dans la lignée de Jaurès et de Blum, c'est que le lâchage total de certains membres de son parti, comme Olivier Faure, le premier secrétaire, qui ne se manifeste pas, qui n'exprime pas du tout sa solidarité, le lâchage total de Marine Tondelier, toujours très équivoque avec les filles et les rapprochements avec les islamistes, le lâchage scandaleux de Ségolène Royal, qui a été au second tour de la présidentielle, qui évidemment s'est lâché. Et en fait, ce qu'on reproche à Jérôme Guedj, c'est ça qui est terrible, c'est le fait d'être juif.
Ben oui.
Et moi, comme vous, qui est un passionné d'histoire et féru d'histoire, mais ça rappelle les vieux débats des années 30 en France.
Ben oui, avec
On avait un leader charismatique qui était Léon Blum, ouais. Intelligent, subtil, intelligent, et on avait un aigri, qui s'appelait Marcel Déat, qui était le socialiste et qui, écrasé par la figure de Blum, est devenu antisémite, a créé même un parti, le Rassemblement National Français, un Rassemblement National, très drôle, qui est devenu après un parti de miliciens violemment antisémites et qui a participé à l'arrestation des Juifs. Et là, on a l'impression qu'au sein de la gauche, bon, c'est très clair, comme l'avait bien expliqué Manuel Valls, les deux gauches irréconciliables, et notamment irréconciliables sur les Juifs et l'antisémitisme. Mais là, ce qui est frappant, c'est qu'au Parti Socialiste, il y a toute une tendance qui est violemment solidaire, à juste titre, de Jérôme Guedj dans ses attaques antisémites venant de la France insoumise et de l'islam radical. C'est Laurence Rossignol, par exemple, c'est Maïer Rossignol, le candidat, c'est aussi évidemment Carole Delga ou Anne Hidalgo qui soutiennent Jérôme Guedj, mais de l'autre côté, il y a les alliés d'Olivier Faure, comme Anna Pic, députée de la Manche, ou Arthur Delaporte, député du Calvados, qui ne veulent surtout pas diviser la gauche, et ils sont prêts à sacrifier le soldat Gage sur l'autel de la gauche. Bien, messieurs et mesdames les socialistes, on ne sacrifie pas un juif face à l'antisémitisme pour garder l'union de la gauche. C'était la première réaction de Jaurès au moment de l'éclatement de l'affaire Dreyfus. Heureusement, Jaurès a changé. Ben, soyez plus lucides, soyez courageux et rompez avec LFI sur ce sujet, parce que c'est un sujet moral, éthique. Je dirais, les Républicains ont fait un barrage contre le Rassemblement National et le Front National sur la question de l'antisémitisme. Vous, socialistes, faites un barrage à LFI sur la question de l'antisémitisme virulent, de l'appel à haine, et l'attaque contre Jérôme Gage en est la plus parfaite illustration.
Alors demain, François Lebrun, nous serons le 8 mai, et il y a 80 ans, le 8 mai 1945, l'Europe était libérée de la folie nazie qui a fait 20 millions de morts, dont 6 millions de juifs. Des juifs qui ont pu échapper à l'enfer des camps retrouvent un Paris en liesse, alors qu'ils n'ont plus de famille, qui ont été exterminés et que leurs anciens logements sont occupés par des Français qui s'y sont installés sans aucun droit.
Pas tout à fait sans aucun droit d'ailleurs, mais on va y revenir. Vous avez tout à fait raison de rappeler en fait cette conjonction de dates qui n'était pas la même fête. Le 8 mai 1945, Paris était en fête, la France était en fête, les bals populaires éclataient de joie, à juste titre, après 4 ans d'occupation terrible pour une grande partie de la France et 5 ans pour une autre. Mais le camp de Bergen-Belsen, le camp de Ravensbrück, le camp de Dachau ont été libérés seulement tardivement, en avril 1945. Et les premiers rescapés juifs d'Auschwitz-Birkenau, qui avaient été déplacés par les marches de la mort et les trains vers ces trois camps, retrouvaient Paris. Ils arrivaient à peu près au même moment. Simone Veil l'a très bien raconté. Et dimanche 27 avril, donc il y a une dizaine de jours, pour la journée nationale de la déportation, il y a eu un rassemblement organisé par l'Union des déportés d'Auschwitz devant l'hôtel Lutetia, parce que c'est à l'hôtel Lutetia que les déportés raciaux, comme on disait, donc les rares survivants juifs arrivés. Sur les 75 500 juifs déportés de France, 4000 sont revenus. Revenus pour beaucoup dans des états physiques, psychiques absolument terribles. Et ce dimanche 27 avril, on a eu la chance d'avoir un témoignage de notre amie Esther Senot, qui a 97 ans et qui est revenue de déportation sans ses parents à 17 ans. Elle est arrivée affamée, mal vêtue, on l'a gardée à peine, c'est ce qu'elle a témoigné devant le Lutetia, c'était très beau d'ailleurs de l'avoir parlé devant le Lutetia. Elle a témoigné qu'on l'a gardée pendant un ou deux jours, elle était à peu près en bonne forme physique, on l'a renvoyée chez elle, mais elle n'avait pas de chez elle. Elle n'avait qu'un frère survivant qui avait rejoint la résistance, qu'elle a eu du mal à retrouver. Elle a erré un peu de porte en porte, elle a été récupérée par les associations juives, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de cellule psychologique, l'État s'en moquait un peu de ces quelques rescapés juifs, il y avait 1 million de prisonniers de guerre qui était en train de revenir, pour eux c'était plus important. Et comme vous l'avez dit, on a eu plusieurs témoignages. Moi je me rappelle un témoignage saisissant d'un rescapé comme ça, qui disait je reviens de déportation, mon père, ma mère, mes frères et sœurs ont tous été assassinés. Je me dirige évidemment vers mon domicile, c'est le seul endroit où je peux aller, à la Bastille, je sonne à la porte, et un de mes voisins ouvre la porte de mon appartement, et effaré de me voir revenir, me reconnaissant à peine d'ailleurs, je me présente, et il me dit « je suis le propriétaire légitime ». C'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'effectivement, quand les appartements vides en période d'occupation ont été donnés vraiment, ou vendus à des voisins, souvent des délateurs qui avaient dénoncé les juifs pour récupérer l'appartement, qui habitaient ces appartements, et le combat pour les juifs rescapés a été souvent très long pour faire valoir leurs droits et montrer à quel point ils avaient été spoliés. Donc il y a eu ce contraste du 8 mai, et je pense que demain, pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la France, et c'est cette paix qui revient en France, et cette joie qui est venue en France à ce moment-là, très légitime, eh bien pour les familles juives, c'était des jours de deuil, c'était des jours de désespoir. Et par exemple, moi j'ai souvent parlé avec mon grand-père qui était résistant et qui avait survécu à la Shoah, mais dont 15 membres de sa famille étaient morts à Auschwitz. C'était aussi les semaines où il allait tous les jours avec mon père, qui était un jeune garçon à ce moment-là, à l'hôtel Lutetia pour en espérant revoir sa sœur, ses parents, ses beaux-parents, ses belles-sœurs, etc. Et un jour, il a vu un ami de résistance revenir de Buchenwald, qui avait été arrêté comme résistant, et il lui a dit, il s'appelait Herpin, il lui a dit, Herpin, est-ce que je vais revoir ma famille? Et Herpin a levé les yeux vers le ciel, ils ont dit, et il lui a dit, ils sont là-haut, personne ne reviendra, et personne n'est revenu.
C'est incroyable
d'abord. Il faut penser à eux.
Ouais. Et cette histoire de l'hôtel Lutétien, hein, parce que c'était le siège de la Gestapo pendant la guerre?
Non.
Non?
Le siège de la Luftwaffe.
De la Luftwaffe, exactement. Ah oui, vous avez raison.
De la Luftwaffe. Mais il y a une morale toujours à ces histoires, j'aime bien, moi. C'est qu'aujourd'hui, le Lutétien est la propriété de Alfred Akiroff, grand promoteur immobilier israélien. Donc l'hôtel Lutétien aujourd'hui appartient à un Israélien, et qui est notamment le propriétaire de l'hôtel Citadel, à Jérusalem, et c'est lui qui est le propriétaire de la tour Akiroff à Tel Aviv.
Ah, voilà, qui ne va pas faire plaisir à LFI.
Et la première soirée de réouverture de Lutétien après Tavaux a été une soirée, parce qu'Alfred Akiroff est au conseil des gouverneurs de l'Université de Tel Aviv, pour les amis français de l'Université de Tel Aviv, avec à l'époque Bruno, c'est en 2018, avec Bruno Le Maire comme invité d'honneur. Donc y a une justice.
Il y a une justice. Voilà, vous savez tout. François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.